Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Élise.
Salut, bonjour à tout le monde.
Bon, après quelques petits soucis techniques, on arrive enfin à savoir et à démarrer dans de bonnes conditions. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Le suspense nous tiendra toute cette conversation. En tout cas, merci infiniment d'être là. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec toi durant une petite heure sur ton parcours et tout ce que tu as fait, notamment parce que tu as été plusieurs fois dans des actus très chaudes sur des très belles performances autour du trail, et je sais que le trail est un sujet qui plaît beaucoup aux auditeurs, donc on va pouvoir aborder un petit peu la course, la préparation d'un record, le mental, aussi ton organisation un petit peu personnelle. J'en profite aussi pour remercier ton passage sur La Boussole que tu m'avais recommandé d'écouter, parce que c'était vraiment un super bon podcast. Et du coup, je le recommande aux auditeurs si jamais ils ont envie d'approfondir et d'en savoir un petit peu plus sur toi après cet échange. Comme je te le disais un petit peu en préparation de cette interview, la question traditionnelle pour démarrer l'échange, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, mon premier souvenir de sport, ça date vers mes 12 ans, quand j'étais au collège, c'était le premier cross et j'ai découvert vraiment la course à pied. En fait, mon passif, ma jeunesse sportive était réduite à peu de choses, contrairement à beaucoup de mes homologues qui ont toujours eu des entraînements, soit d'athlée, soit de vélo, enfin quelque chose de très suivi au niveau familial. Moi, c'est vrai que je suis dans une famille où on n'était pas forcément très sportif, très actif, mais pas forcément sportif. Donc, le côté découverte de la compétition sur le cross du collège, c'était un grand moment. Et j'en garde des super souvenirs parce que c'est vrai qu'avec les profs après on garde des liens et j'ai retrouvé d'ailleurs mon prof de troisième récemment. On s'est retrouvé, j'étais marraine de l'organisation de son trail, donc c'était un super moment qui permet de se replonger dans les souvenirs du passé.
Ok, génial. Et comme quoi gagner des courses ou en tout cas faire des performances sur des trails, ça te permet de renouer des liens forts avec les profs, quoi. C'est marrant. Bon, tu me disais que t'avais gagné du coup ce premier cross. Il y avait quand même, c'est pas une performance anodine, tu vois. Moi, je me souviens quand même à l'école, ceux qui gagnaient les cross généralement, c'était quand même les sportives et les sportifs. Il y avait des signes un petit peu annonciateurs quand même de tout ça.
Non, en fait, moi, je m'y attendais pas, et puis j'étais toujours dehors. C'est vrai que j'étais quelqu'un d'hyperactif quand j'étais enfant. J'étais toujours sur mon vélo. J'étais toujours en train de courir dans le jardin. On avait un très grand jardin, donc j'étais toujours dehors à m'activer. Mais je pense, ouais, qu'après, il y a peut-être des petite prédisposition génétique aussi qui aide et qui font que j'étais faite pour ce sport, mais sans le savoir, quoi.
Ok, génial, génial. Et t'as tout de suite pris goût à la course à pied et au cross?
Alors, j'ai bien aimé. Alors, toutes les années collège, j'ai fait tous les crosses, que ce soit après le district, le régional. Enfin, j'allais pas jusqu'au national, parce que je pense après que je manquais peut-être un peu aussi de suivi d'entraînement. C'était vraiment, je m'entraînais que sur les dernières semaines. Par contre, au lycée, c'est vrai que j'ai pas trop continué. J'étais plus dans un groupe de copains qui étaient moins sportifs, donc moins portés sur la discipline. Et je m'y suis remis vers 20 ans. Donc, ouais, j'ai fait une belle pause après pendant l'adolescence où j'allais courir, mais pour le plaisir, quoi. Je courais 20 minutes, une demi-heure pour l'entretien, quoi. Je faisais des petits tours de vélo, mais rien dans la compétition ou dans le dépassement de soi ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment pour le plaisir d'être dehors, quoi. C'était vraiment le côté nature qui me plaisait. Mais c'est vrai que j'ai vraiment démarré mon sport tel que je le fais aujourd'hui vers 20 ans, quoi.
D'accord, ok. Mais je suis quand même un petit peu curieux parce que tu vois, dans plusieurs interviews, tu parles du mental et que t'en as vraiment fait une force et que c'est vraiment un de tes atouts. Et je me demandais en fait si rétrospectivement, est-ce que tu vois dans ton enfance peut-être des anecdotes ou des qualités, tu vois, qui pouvaient justement annoncer plus tard les talents et les qualités d'une championne et qui bat des records, quoi.
Oui, alors j'ai toujours un caractère très tenace depuis ma tendre enfance. Ça, je sais que j'avais un caractère où je lâchais rien. Ça m'a valu des souvenirs justement d'enfance où j'étais. On était trois dans la famille et justement de trois on est passé à deux. Je pense que c'est ça aussi qui m'a forgé un gros mental. J'ai perdu mon frère dans un accident de voiture quand j'avais 14 ans. Et donc, je pense que c'est un événement de la vie qui m'a forgé vraiment un mental très fort parce que, à 14 ans, on est encore dans l'adolescence et quand il nous arrive une tuile comme ça, je pense que j'ai très vite repris le dessus en me donnant une force intérieure que j'utilise encore aujourd'hui, je pense, sur les ultra-trails. J'en suis persuadée et je pense voilà que c'est mon enfance quand même qui m'a forgé cette ténacité, même si j'avais un caractère déjà tenace, ça m'a vraiment renforcée pour passer cette épreuve, quoi.
D'accord, c'est là où je suis. C'était ton grand frère?
Oui. Il avait 21 ans, donc moi j'avais 14 ans, on avait 7 ans d'écart, mais on avait vraiment le même caractère, on était très complices, donc c'était vraiment difficile. Mais j'ai mis, je pense, toute cette difficulté, j'en ai fait une force, et c'est ça qui me poursuit au fond de moi et qui me permet justement de faire ce que je fais au niveau sportif et même dans la vie pro. Hein, je lâche rien et c'est quelque chose. Voilà, je suis fière aujourd'hui de dire que cet événement malheureux me fait du positif au quotidien. Quoi.
Bah écoute, bravo, parce que tu vois, je connais beaucoup de personnes, en tout cas, à qui il a pu arriver des drames et des moments particulièrement difficiles. Je pense que tu vois, on n'a peut-être pas tous perdu un frère ou un modèle, mais on est tous des êtres humains, donc on a forcément des décès autour de nous. Et tu vois, moi je suis toujours subjugué de voir à quel point les personnes réagissent différemment. Il y a des gens qui s'enterrent complètement, il y a des gens au contraire qui rebondissent un petit peu comme toi. Ouais. Et donc je te félicite en tout cas de ce rebond et d'avoir réussi à en construire une force. Peut-être un conseil peut-être que tu peux donner autour de toi. Je sais pas comment. Est-ce que tu l'as peut-être conscientisé rapidement?
Non, en fait je m'en suis rendu compte. Plus je vieillis, plus je me rends compte. En fait, je fais aucune préparation mentale. C'est vrai que beaucoup me demandent, mais comment tu te prépares mentalement? T'es suivi? Et je dis non, c'est moi toute seule. Et je sens en vieillissant que je me suis forgé un caractère au fond de moi qui me permet justement avant toutes ces compétitions de toujours voir le positif. En fait, c'est toujours, je me dis toujours dans la vie, il faut voir le positif. Il y a des passages difficiles. Et en fait, je visualise, là je parle pour mes ultras, je visualise les moments qui pourraient être difficiles, j'imagine le pire, et j'imagine comment je peux pallier à ce passage qui est compliqué et à quelle pensée positive je peux avoir à ce moment-là. Et instinctivement, le jour J, c'est ces pensées-là qui reviennent. Donc voilà, j'ai toujours appris dans la vie à profiter de chaque jour. Grâce, tu vois, encore une fois, je fais de mon expérience, là, de mon drame à 14 ans, me dire qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite demain, donc il faut profiter de chaque instant, et toute expérience qu'on peut nous proposer, qui soit un peu du commun, il faut dire oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, quoi. Et ça, je suis contente aussi d'en avoir pris conscience très jeune, c'est que du coup, bah, voilà, j'ai 36 ans et j'ai l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses, et j'ai encore envie de faire plein de choses, j'ai envie d'en profiter chaque jour, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je me suis lancé ce défi. C'est un peu en lien quand même, parce que j'étais frustrée de ne pas profiter pleinement de ma passion, de pas pouvoir me dépasser, aller chercher ce qu'on cherche dans l'ultra. Et je me suis dit, mais je le tente. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Tout est un petit peu lié, quoi.
D'accord, ok. Donc c'est dans, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y avait un espèce de rêve et que tu te retenais un petit peu de le faire, et peut-être à un moment, tu as eu un déclic et que tu t'es dit, bah tiens, et si je me lançais ce fameux défi des 24 heures, pourquoi pas moi, tu vois? Et est-ce qu'il y a eu un événement particulier, un déclencheur qui a fait que ce projet, ou qui était peut-être juste un rêve au début, est devenu réalité?
Alors, franchement, l'idée m'est venue le 30 août. Ça paraît, il y en a okay. Qui m'ont dit, mais 3 semaines, ouais, en fait, j'étais frustrée. Franchement, j'étais frustrée à la fin de l'été. Je me sentais vraiment en forme. J'avais fait le trail de la Vanoise. J'avais retrouvé le goût de la compétition. Donc, je suis restée sur ça et je me suis dit, je veux refaire un ultra autour de 100 km. Ce serait bien, 100, 150 avant la fin de l'année. Bon, le Covid annulant tout, il y avait vraiment aucune possibilité de trouver quelque chose ou un équivalent. Et en lisant un article en fait sur Patrick Boire qui venait de battre le record fin août, je me suis dit, il y a l'idée, c'est l'occasion de me lancer, moi qui aime bien me lancer des challenges, de me lancer un défi et de pouvoir faire ça en plus chez moi. C'est vrai que dans le Nord, il y a quelque chose qui se passe avec les trailers de la région. Pendant les moments de l'UTMB, quand je suis rentrée, ça a été incroyable ce qui s'est passé ici. J'ai été contactée pour faire des conférences, pour expliquer ce que j'avais fait, comment je m'étais préparée. Donc, j'en garde un super souvenir. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est l'occasion aussi de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi durant l'UTMB, parce que je sentais cette énergie des gens qui me suivaient et pour après. Et j'avais envie aussi de fédérer un petit peu les gens. Donc, c'était le projet, en fait, je l'ai imaginé en 3 minutes. Je l'ai visualisé dans ma tête. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que ça s'est passé comme je l'imaginais 3 semaines après. C'est-à-dire que tout s'est déroulé très bien avec des gens autour de moi, des paceurs, des gens qui sont venus m'encourager et une communauté... de trail ou pas, parce qu'il y avait aussi pas mal de non-trailers qui ont découvert ça et qui étaient subjugués de voir que le corps humain pouvait faire des choses extraordinaires. Mais c'est une double satisfaction. Il y a la satisfaction du défi réussi et puis la satisfaction d'avoir fédéré les gens et d'avoir créé une osmose pendant 24 heures.
Ok, bah ouais, c'est génial. Moi, j'ai regardé un petit peu les petites images que j'ai réussi à trouver un petit peu par-ci par-là, et on sent que il y avait une énergie de dingue autour de toi. Et même quand on voit ton sourire à l'arrivée, on se dit mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'elle ait autant de sourire? Et je pense qu'il y a eu une espèce de communion avec les gens qui t'ont accompagné pour ce projet, quoi.
C'est ça. En fait, j'avais tout misé sur. D'habitude, c'est les paysages qui me portent. Quand je fais un ultra, je me dis toujours la récompense, c'est là, t'en chies dans la montée, mais en haut, la vue va être magnifique. Et ça me porte vraiment. J'ai juste à lever les yeux et j'ai vraiment l'impression que la nature me donne l'énergie nécessaire pour avancer et être bien. Et je me sens vraiment bien. En fait, quand je fais un ultra, j'arrive pas à expliquer, mais je me sens en communion avec la nature et même si ça fait mal, en fait, j'arrive à faire abstraction des douleurs qu'on peut avoir aux jambes, aux pieds, enfin un peu partout, pour vraiment vivre le moment. Et je parle toujours de tranches de vie. J'en parlais avec moi un des paceurs qui me suivait là pendant les 24 heures et je disais, tu vois, là, je suis en train de vivre une tranche de vie. C'est-à-dire, je dis, mais c'est une expérience que je vis. J'ai la chance de pouvoir le faire, de m'être décidé 3 semaines avant. C'est quand même dingue. Il y a peu de personnes qui peuvent dire tiens, je vais tenter un 24 heures. Donc je sais que j'ai de la chance et j'appelle ça une expérience de vie dont je vais me souvenir toute ma vie. Donc c'est pour ça j'aime bien parler en tranche de vie des choses que j'ai faites cette année-là et c'est des choses qui vont me marquer et quand je serai vieille, et ben je pourrais me dire waouh, je me souviens de ce moment-là. Il y a plein de journées dans l'année on les oublie, on sait même plus ce qu'on a fait tel jour, que là je sais que ce 19 et 20 septembre 2020, ben j'avais fait mon défi et j'avais vécu quelque chose de fort avec tout le monde, quoi. C'est vraiment ça que je veux retenir, quoi.
Ok, mais en tout cas, ouais, effectivement, je pense que tu vas t'en souvenir très 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 longtemps. Quoi qu'il y a encore, plein de records à battre, donc j'imagine que tu as de nouvelles idées. On en reparlera un petit peu juste après. Mais moi, tu vois, je suis un petit peu curieux quand même de savoir sur la partie logistique. Tu vois, tu me dis que t'en parles 3 semaines avant, tu penses l'idée en 3 minutes, que les gens autour de toi te disent que c'est impossible. Quelles sont les grandes étapes, quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que j'imagine qu'il faut fédérer une communauté, il faut prévenir un peu la presse, faut qu'il y ait un huissier, il faut qu'il y ait plus ou moins une ligne d'arrivée, faut imaginer le parcours. Bon, le parcours, tu as fait sur un terrain connu, mais tu vois, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes les étapes et toutes les tâches que tu as dû mettre en place sur ce projet qui a été fait en ultra accéléré? Finalement, là, c'était un sprint,
oui.
L'organisation de ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette étape-là? Parce que je suis particulièrement curieux de savoir...
Ça a été après, je suis quelqu'un dans la vie qui est très organisé, que ce soit dans la vie perso ou dans le boulot. C'est aussi une de mes forces dans le travail, c'est que je suis très carré, très organisé. Donc directement, dès que j'ai pris ma décision, bah, je me suis fait une to-do list en me disant bah il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et donc j'ai contacté. Après, j'ai la chance d'être dans la région, d'être connu et du coup ça facilite aussi les choses quand j'ai appelé le directeur. Enfin, j'ai par l'intermédiaire d'un organisateur d'une course, il a contacté le directeur de l'Oasis Nord, donc là où j'ai fait le défi, pour savoir si c'était possible. Donc lui, il a dit directement oui. En parallèle, j'ai essayé de chercher un autre terri qui était très intéressant au niveau dénivelé. Malheureusement, après, il y a toujours des histoires d'autorisation parce que les terris sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est compliqué et avec le contexte Covid, c'était encore plus compliqué. Donc, j'avais pas le choix. C'était forcément le terri de Loisy-Nord. Après, je le connaissais. J'avais le souvenir... Au niveau des préparations, je me disais, bon, il y a 2 ans, j'avais fait une compétition, en fait. C'était un défi de 7 heures. On devait essayer d'atteindre l'équivalent du Mont Blanc, que j'avais gagné au scratch. Et donc, ces 7 heures, je m'en souvenais très bien. Et je me disais, la pente, elle est quand même pas mal. Ça peut vraiment le faire sur ce terri. Donc, j'étais assez rassurée sur le lieu. Même si je continuais de chercher en parallèle un autre terri, j'ai en parallèle contacté un chronométreur qui devait se rendre dispo quand même sous 15 jours, qui a tout fait pour me. Il avait déjà une organisation, mais il s'est débrouillé, donc je le remercie encore parce que sans lui, ça aurait été compliqué. J'ai contacté un géomètre qui s'est rendu disponible dans les 48 heures pour pouvoir venir faire les mesures par triangulation GPS. Après, j'ai la chance d'avoir une équipe derrière moi, mon mari qui a suivi ça de loin au début et beaucoup plus près le jour J. Après, j'ai compté sur mes proches, ma mère qui a géré tout le côté ravitaillement, elle a vraiment tout géré de A à Z. Donc ça, c'était aussi une chose en moins à gérer. Les paceurs sont venus à moi naturellement. C'était génial quand j'ai annoncé mon défi une semaine avant. J'en avais parlé un petit peu. Ils m'ont tous envoyé un petit message. Est-ce que tu veux qu'on te soutienne? Et les choses se sont faites naturellement. Donc, j'ai vraiment été entourée et accompagnée. C'était vraiment top. Et après, j'ai aussi contacté Greg Vollet qui m'avait fortement suivi sur ma préparation du TMB, qui aussi m'a soutenu dans cette idée. Et du coup, vraiment, j'ai vraiment eu autour de moi une équipe en or pour mener à bien le projet.
Bah ouais, moi c'est ça qui m'a impressionné. Je pense que faut bien plus que des talents sportifs que pour organiser un tel événement et un tel record. Faut aussi des qualités humaines. À la fois un petit peu de vrai leader, faut avoir un vrai leadership, je pense, pour convaincre autant de personnes et avoir cette facilité à trouver autant de partenaires rapidement et en même temps en organisation, j'imagine que ça devait être un petit casse-tête.
Ouais, en fait, je me suis mis c'est le vendredi soir, dans le jeudi soir où je me suis dit, ça y est, tout est en place, je peux penser à maintenant. Uniquement à ces 24 heures. Et du coup, j'ai pas eu de stress, en fait, parce que j'étais vraiment dans l'organisation en amont. Et c'est vraiment le jeudi soir, je me suis dit, là, j'ai tout. Enfin, j'ai reçu mes bâtons. Je les avais même pas testés. J'ai reçu mes bâtons le jeudi. Donc, voilà. Il y avait quand même des facteurs, enfin, des paramètres qui auraient pu être beaucoup plus, revus, pour refaire quelque chose, peut-être encore mieux. Des tests, j'en ai pas fait beaucoup. En fait, j'ai très peu testé le terrain, savoir ce qui était le mieux, de s'arrêter à quel endroit. Enfin, mais en même temps, je suis assez contente de moi en me disant, mais disons qu'en 3 semaines, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de bien en ayant la capacité à avoir à meuter toutes ces personnes autour de moi. Et c'est pour ça aussi que je pouvais pas, hein. J'ai quand même eu les 3 dernières heures qui étaient très difficiles, mais je pensais aussi à toutes ces personnes que j'avais sollicitées et je voulais pas les décevoir. Donc c'était indéniable, j'allais pas abandonner, j'irai au bout, quoi.
OK. Mais en tout cas, c'est fascinant. C'est fascinant ce que tu as fait. Franchement, je te tire mon chapeau et je t'adresse vraiment un gros bravo parce que autant pour l'exploit sportif que pour la prouesse de logistique, c'était vraiment très bien. Et tu vois, il y a quelque chose aussi qui m'a marqué, hein, enfin, en tout cas que je trouve très noble et très beau dans cet effort. C'est aussi le fait que tu le fasses un petit peu à côté de chez toi, effectivement sur les terrils. Tu l'as dit, ce sont des zones inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Et je trouve que tu vois, ça montre une dimension de tout le monde peut le faire en fait. Tout le monde peut prendre la colline à côté de chez soi. Alors effectivement, toutes les collines sont pas forcément propices à réaliser un record de dénivelé en 24 heures, mais
c'est exactement ça aussi. Ouais, le message, c'était moi j'habite là. et je veux chercher quelque chose qui soit possible là où j'habite. Et en plus, c'est mes terres d'entraînement. Donc, c'était aussi montrer un petit peu comment les nordistes s'entraînent pour pouvoir être au point pour arriver en montagne en forme. Quand les compétitions sont là-bas, on peut pas toujours faire des blocs d'entraînement, partir là-bas tous les mois. Donc, c'est aussi montrer la difficulté et le côté redondant qu'un entraînement dénivelé peut avoir pour les gens qui ont pas la montagne à côté de chez eux, quoi. Et puis, c'était aussi, pour remercier justement toutes ces communautés de trail du Nord qui m'avaient soutenu. Je voulais, en fait, j'avais vécu la fin de l'UTMB en étant portée par l'énergie de ce qu'on me racontait, le suivi qui se faisait là-haut. Et là, j'avais envie, du coup, de vivre quelque chose avec eux. S'ils voulaient venir me voir, on pouvait le vivre ensemble, quoi.
Ok. Bah, c'est vraiment génial et je pense que le pari est entièrement réussi. Je me demandais un petit peu sur le côté performance. Tu vois, la tentative de record et tout, tu nous l'as bien expliqué. Il y avait du sens. T'avais envie de croquer la vie à pleines dents. T'avais envie de le partager avec ta communauté et les gens que tu connaissais. Mais tu vois, sur la partie vraiment sportive, est-ce qu'on peut être prêt pour ce type de record? Ça, c'est une des questions que je me pose. Et une des autres questions que je me pose, c'est, tu vois, c'est mine de rien, ton premier ultra, c'était l'année dernière à l'UTMB. Tu fais la première performance française, mais si je dis pas de bêtises, je crois que tu étais la 7e internationale. Ouais. Donc, tu vois, il y avait quand même des femmes devant toi et là tu te retrouves avec la 4e meilleure performance mondiale et quelques dizaines centaines de mètres derrière des hommes, tu vois. Donc moi c'est je suis curieux de savoir comment tu as eu cet élan de confiance et comment est-ce que tu as pu y croire à un moment à ce record.
En fait, j'ai toujours adoré monter. En fait, la première fois que j'ai fait un trail en montagne, c'était à la Maxi Race en 2014, et j'ai adoré l'effort des montées. Enfin, et j'avais eu une facilité à monter, et je doublais des montagnards sans avoir d'entraînement. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, il y a matière à encore exploiter ça. Et je sais que je perds beaucoup de temps, c'est dans les descentes techniques. J'ai okay. énormément de progrès à faire là-dessus. Donc, c'est vrai que sur tout un ultra, je pense que je perds énormément le bénéfice de ma capacité à monter par rapport aux descentes techniques. Et bon, ça, je compte bien le travailler dans les mois à venir. J'ai toujours beaucoup à progresser, même si j'ai l'impression qu'il y a des petits déclics qui se font, mais je passe pas assez de temps encore en montagne pour que ça progresse vraiment. Et après, j'ai aussi un passif j'ai fait pas mal de raids multisports aussi quand j'avais là, mais entre 20 ans et 30 ans, j'ai fait beaucoup avec mon mari et des amis, on a participé à pas mal de raids multisports où là, il y a un effort très long aussi. Soit c'était sur une journée, soit sur 2 jours, soit on a déjà fait 5 jours. Donc je sais aussi que le corps a une mémoire et génétiquement, je pense aussi, voilà, on est fait soit pour du court, soit pour du long. Et moi, je me suis vite rendu compte que j'étais faite pour le long et que j'appréciais vraiment cet effort et que j'étais dans un sentiment de plénitude quand j'allais chercher très loin et j'arrivais à pousser mon corps et il me le rendait bien, quoi.
Ok. Bon, ok. Super, super intéressant. En tout cas, je suis assez bluffé par cette performance. Et peut-être un peu quid de tu vois, tu l'as dit, on est génétiquement, on a parfois plus d'afflux sanguin et du coup pour des efforts très courts et des fois on a peut-être des fibres musculaires plus lentes et du coup on est fait pour du très long. Il y a effectivement une notion de morphologie qui compte. J'ai l'impression que tu vois l'écart entre les hommes et les femmes se réduit au fur et à mesure des années sur tous les sports qui sont vraiment sur des performances d'endurance. Là, franchement, t'as fait une performance qui était très très proche de ce qu'ont fait certains hommes. Est-ce que c'était une chose à laquelle t'as pensé quand tu l'as fait, te dire bah est-ce que je peux aller chatouiller les messieurs? Est-ce que tu pensais que c'était possible d'arriver aussi près? Est-ce que c'est même une question qui te tient à cœur peut-être?
Alors sincèrement, je dirais oui, je savais que je pouvais m'en approcher. Il y a plusieurs choses hein, qui me font penser. Déjà, je voulais vraiment montrer. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte parce qu'on est très peu d'ultra-traileuses. C'est montrer que plus la distance est longue, plus le niveau entre les hommes et les femmes se nivelle. Et ça, il y en a peu qui en ont conscience. Donc c'était aussi pour communiquer là-dessus. C'est plus l'effort est long, plus les femmes arrivent au niveau des hommes. C'est juste qu'on est moins nombreuses au départ aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais montrer. Et puis après, je me souvenais aussi. Mon mari m'avait dit sur l'UTMB à l'un des derniers ravitaux, il me dit, mais je ne comprends pas, tu es la seule qui arrive dans un état de fraîcheur parfait. Enfin, c'est vrai que l'UTMB, j'ai vécu un UTMB de dingue. Toute ma stratégie, la manière dont je voulais l'aborder, tout a fonctionné. J'ai eu aucun pépin. Enfin, c'était vraiment comme dans un rêve parfait. Moi, j'ai eu des moments difficiles de douleur, hein, mais ça faisait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'aux deux derniers ravitaux, il me disait, mais tout le monde arrive entamé et toi, t'as l'air de bien aller. Bon, après, j'étais dans un état second en voyant que j'étais repartie, enfin j'étais dans le top 10, ça porte aussi, hein, ça aide, c'est euphorisant on va dire. Et puis je me souvenais, voilà, ce que je lui ai dit, ce défi il me fait pas peur parce que je sais qu'au bout de 24 heures ça va tenir, j'ai l'expérience, je pense que le corps a vraiment une mémoire et se souvient et j'avais vraiment confiance en mon corps au niveau de la réaction qu'il pouvait avoir. Le côté redondant de la montée et descente, pareil, ça me faisait pas peur parce que j'aime bien monter. Bon là pareil, ça fait vraiment amateur, mais j'avais pas utilisé mes bâtons depuis l'UTMB. Enfin, juste sur un petit stage avec des copains au mois de juin où je les avais utilisés, mais j'avais même la vanoise, je les avais fait sans bâton parce que je pensais jamais faire ça. Donc je sais que ma technique bâton en plus n'était pas la meilleure. Il aurait fallu beaucoup travailler là-dessus cet été, chose que je n'avais pas fait, mais voilà. Après, qui ne tente rien n'a rien, et ça s'est bien déroulé. Mais c'est vrai qu'il fallait oser, mais j'aime bien. C'est ma manière aussi de voir les choses. C'est enfin, qui n'ose rien n'a rien. Faut sortir de sa zone de confort. On est de plus en plus. Enfin, je vais pas dire, mais on est, j'ai l'impression que là, avec le Covid, on est un peu mis sous cloche. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui peut se passer, faut y aller, quoi. Et là, je le sentais bien. Au fond de moi, je le sentais très bien. Et puis, ça s'est bien passé. Donc, c'était parfait.
Ok, ouais. Tu peux nous parler un petit peu peut-être de la stratégie de course sur un record comme ça? Tu l'as très bien dit. Il y a beaucoup de redondance parce que là t'es sur un terril et du coup tu montes et tu descends, donc il y a pas la notion de décor, il y a pas la notion du temps doit être assez particulière. Donc j'ai l'impression que beaucoup de choses étaient assez instinctives pour toi, mais tu as l'air très organisé et je pense que tu as dû faire une petite stratégie, notamment peut-être, je sais pas, sur le sommeil, sur la nutrition, sur la vitesse de course. Est-ce que tu peux nous révéler quelques petits secrets que t'as mis en place?
Oui.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En fait, j'ai eu qu'un week-end pour faire réellement mes tests parce que le site n'a ouvert que le 7 septembre. Donc, j'ai eu un week-end, j'y suis allée le vendredi, le samedi, le dimanche, le vendredi soir. Voilà. Le samedi, j'ai fait 5 heures d'affilée et c'était terrible parce que je comptais chaque tour. Et donc, j'ai compté mes 60, je crois que j'avais fait 63 tours. C'était horrible. Donc, un tour, deux tours. Et je me suis dit, il faut surtout pas faire ça la semaine prochaine. Enfin, ça va être terrible. Et j'ai carrément décidé de ne pas prendre de montre. J'ai demandé au chronométreur de pas me montrer à l'écran, que l'écran soit caché, que j'ai pas la visualisation en fait de ce que je suis en train de faire, pour vraiment rentrer dans ma bulle et ne pas penser au nombre de tours, ne pas penser au kilométrage, à l'accumulation de dénivelé. Et par contre, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, tu seras mon maître du temps. Dès que je te demanderai j'en suis où, tu feras que tu me dises. Et ce qui a été très bien aussi, c'est qu'il m'a parlé en pourcentage. Donc ça me donnait en fait des buts. Comme sur un ultra où j'ai des buts, c'est ravito en ravito. Je pense jamais à la fin. Je pense, le ravito est dans 30 bornes, ravito est dans 50. Là, c'était, quand il m'a commencé à me dire, t'as fait 25%, je dis, très bien, tu me parles en pourcentage. Et donc, j'allais chercher les 30. Quand j'étais dans les 30, j'allais chercher les 40. Et voilà, j'ai évolué comme ça. Et quand on m'a dit, t'as fait 100 kilomètres, je m'en rendais même pas compte. J'ai fait, waouh, j'ai fait 100 bornes, je m'en suis pas rendu compte. Et ça, c'était, ouais, je pense que c'était important pour pas que ce soit long. J'ai pas eu cette sensation de longueur. Quand le jour, quand la nuit est arrivée, j'avais aucune notion du temps. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle, dans cette notion-là. Donc, ça, c'était quelque chose d'important. Au niveau nutrition, en fait, je me suis dit, c'est super, j'aurais pas apporté la bouffe dans mon sac, ça fait du poids moins sur le dos. Donc ça, c'est un super avantage. Sauf que je pense que j'ai beaucoup trop mangé au début, en pensant bien faire. Quand j'analyse après, hein, le problème aussi, c'est que ma position sur les bâtons n'était pas la meilleure. Et j'ai eu, dans la nuit, une barre au ventre terrible qui m'a coupé la digestion et dans la nuit il m'était impossible de m'alimenter, même de boire, j'avais plus du tout envie de boire, rien ne passait, j'avais juste envie de sirop de menthe et il me forçait à boire du thé quand même, du thé avec du miel dedans, et c'était le sirop de menthe qui passait, enfin ils m'ont trouvé, pareil, c'est une équipe de choc, je devais être 3-4 heures du matin et 10 minutes après j'avais du sirop de menthe dans la flasque. Donc ça c'était du bonheur d'avoir été écoutée. Et ça, je me suis dit, mince, j'ai peut-être déconné à vouloir manger quasi à chaque tour quelque chose et qui n'était pas forcément bon non plus pour le tube digestif. Mais j'ai appris au moins, c'était un effort qui était nouveau, hein, qui n'avait rien à voir avec un ultra classique. Je pense aussi, voilà, que la position sur le bâton, il faisait très chaud. Voilà, ça a été plusieurs facteurs qui m'ont rendu cette digestion difficile et qui m'ont un petit peu fait peur quand même pour savoir comment allait se passer la faim, parce que je me suis dit, mais on a encore toute la matinée de dimanche à tenir. Si j'arrive à rien avaler, comment je vais faire, quoi. Et bon, vu que j'avais bien mangé le samedi, durant la nuit, pendant 5 heures, j'ai vraiment rien avalé, c'est passé. Mais bon, j'ai baissé de régime au fur et à mesure, forcément, à 7 heures du matin, mais mes tours, je les tournais beaucoup moins bien. Et c'est là où mon mari a une petite idée ingénieuse, parce que lui, il connaît bien les déshydratations, il connaît bien les problèmes gastriques. Il m'a demandé si je voulais du sorbet. Et alors là, idée magique, vu que je pense que le corps était quand même en surchauffe, on a eu des températures assez élevées, et j'ai dit oui, et là pareil, un copain qui du coup à 6h30 du matin, 6h30, 7h du matin a pris sa voiture et m'a amené du sorbet à la framboise, et je me suis fait le bac de sorbet à la framboise sur la dernière matinée. Mais je pense que ce sorbet m'a sauvé la vie, parce que j'ai eu l'apport quand même de sucre, et puis petit à petit de nutriments, j'ai commencé à reboire un peu de boissons isotoniques. Donc c'est passé, mais c'est vrai que c'était le. Je pense que c'est amélioré au niveau alimentaire. J'ai peut-être pas pris la bonne direction en essayant de manger un maximum tout de suite. Et puis après au niveau du rythme, là ça pareil, j'étais pas d'accord avec mon mari. Moi je voulais démarrer très vite, faire un maximum en me disant ben tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et lui il me disait non, il faut que tu démarres cool et puis tu accéléreras pendant la nuit. Bon, on n'était pas d'accord, ça c'était la veille au soir, et puis bah le jour J, moi j'ai pas pu me retenir, que je suis partie très vite, j'avais vraiment des watts à dépenser, donc je suis partie, j'étais en mes tours, je les tournais en 3:30 au lieu de les tourner en 4:55, donc j'étais vraiment sur un très gros rythme, mais je me sentais pas fatiguée, enfin je sentais que ça passait bien. J'avais pas le cardio, mais je connais après d'habitude sur la montre, mais là je savais, je connais mes sensations, mais j'avais vraiment envie, enfin j'avais vraiment de l'énergie à dépenser et tout ce qui était pris, voilà, et tant mieux, parce que la nuit, voilà, j'étais pas très bien, et je sais que moi la nuit c'est pas là où j'arrive à performer, c'est quand il fait jour. Donc j'ai suivi mon intuition personnelle, même si on n'était pas d'accord.
Bah des fois, tu sais, c'est toujours dans une relation un petit peu de... Même quand je parle avec d'autres athlètes, la relation qu'ils ont avec le coach, finalement, c'est toujours l'athlète qui termine par choisir ce qu'il a envie de faire. Donc faut savoir écouter son instinct, quoi.
C'est ça. Là, j'avais vraiment l'envie, l'énergie qui était là depuis la veille au soir. Donc, je pense que c'était bien d'engranger un maximum de tours dès le début. Je pense que c'était la bonne stratégie.
Et j'ai cru comprendre que tu avais beaucoup de mal, toi, à dormir pendant les courses. Je sais que certains coureurs ou coureuses, tu vois, choisissent d'intégrer dans leur stratégie un moment sur le sommeil. Est-ce que toi, tu arrives à dormir, à faire des micro-siestes durant une course, ou du coup, est-ce que tu as du coup fait ce record d'une traite?
J'ai fait ce record d'une traite, j'ai même pas eu l'envie de dormir. J'avoue que ça m'est complètement, j'ai complètement fait abstraction du sommeil, contrairement à l'UTMB où j'ai eu un coup de barre au lever du soleil dans la montée de Berton. Je me souviens, j'étais mais vraiment fatiguée, j'avais envie de dormir. Non, là, je suis incapable déjà dans la vie courante de faire des siestes. Donc en course, c'est très compliqué pour moi de me dire voilà, je me pose et non, je fonctionne vraiment où je veux pas m'arrêter et le repos c'est après. Je sais pas si c'est une bonne chose, j'en ai discuté avec quelqu'un il y a pas longtemps, mais il faudrait que je travaille ça pour essayer de faire des micro siestes. Je pense qu'il y a si on veut après faire des 100 miles, je pense que c'est important quand même d'avoir cette capacité là. Ouais. Mais pour la petite anecdote, c'est que j'ai déjà fait un ultra. Bon, j'étais pas du tout préparée pour cet ultra. C'était en 2016. C'était le Mercantour. C'était 145 km. J'étais pas entraînée. J'avais eu un accident du poignet assez lourd au mois de mai, donc fin mai. Et le départ était le 2 septembre. Donc forcément, j'étais pas prête. Hein. J'ai pris un départ. Enfin, je le ferai plus aujourd'hui. Hein. J'ai pris un départ sans entraînement, en ayant juste couru 2 heures. Mais c'était le côté, encore une fois, un challenge. Je veux pas louper ça. J'ai envie de voir le Mercantour. En fait, dans ma tête, c'était je fais une rando express. J'ai la chance de prendre un départ, découvrir le Mercantour et de le faire. S'il faut le finir en marchant, mais je le finirai. Et en fait, j'ai mis 45 heures pour le finir. Et le gros souci, c'est qu'on est parti à 13 heures. Donc, j'ai fait 2 nuits dehors et je n'ai pas dormi une minute. J'ai vraiment vécu une expérience terrible avec des hallucinations. Et ce qu'il y a de sympa grâce à cette expérience de 2016, dès que je suis en difficulté, même sur des plus petits trails, hein, je repense à ces souffrances que j'ai eues. À lutter contre le sommeil, à lutter contre les douleurs, parce que j'avais pas l'entraînement, il y avait quand même 11 000 mètres de dénivelé. Donc c'était vraiment de la souffrance, et je repense toujours à cette ultra, et je me dis, de toute façon, t'as déjà fait pire. Donc il n'y a pas de souci. Ça va passer. Et c'est vrai que c'est un curseur que j'utilise, cette première expérience d'ultra qui était vraiment néfaste. Je l'ai beaucoup utilisé aussi sur le Marathon des Sables. J'ai participé au Marathon des Sables et le Mercantour reste pour moi le pire souvenir de souffrance quand un corps n'est pas préparé à cet effort. Quoi.
Ouais.
Voilà. Okay. Je sais pas si c'était une bonne décision de faire ça. Aujourd'hui, je me dis que c'était. J'étais vraiment novice dans la discipline, donc je m'en rendais pas compte de l'importance d'une préparation à minima sur le côté longue distance, quoi.
Ok. Et peut-être, du coup, ça implique, en tout cas, cette tactique de pas dormir ou de ne pas réussir à dormir pendant une course, ça implique peut-être du coup une préparation spéciale ou une récupération spéciale. Tu dors énormément après et tu dors énormément avant, parce que j'imagine que le corps il doit quand même compenser. On n'est pas tous fait pareil, mais on a tous besoin de dormir.
C'est ça. En fait, pour l'UTMB, je savais que j'arriverais pas à dormir, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'emmagasiner un maximum de sommeil les nuits d'avant. Dès le lundi, je me suis obligée à me coucher plus tôt que d'habitude et à essayer de dormir un maximum. J'avais pris une semaine de congé en exprès pour justement bien dormir et récupérer un maximum et arriver fraîche sur la ligne de départ au niveau sommeil. Et ça a fonctionné. Par contre, après, je dors pas plus. Enfin, limite, je dors moins parce que là, il y a eu l'UTMB, il y a eu la nuit UTMB. La nuit suivante, je suis arrivée et j'étais incapable de fermer les yeux. Je me suis même pas couchée tellement j'étais sur mon nuage à ne pas comprendre ce que je venais de faire. Et la nuit suivante, je me suis couchée très tard parce que je travaillais le lundi. Donc, on a fait la route Chamonix-Arras et on est rentré à 3h du matin. Donc, j'ai eu une toute petite nuit et je me suis dit, waouh, le corps tient quand même. Je pense qu'on tient aussi grâce aux endorphines, à tout ce qu'on sécrète au niveau aux bonnes hormones, mais j'ai pas eu cette impression d'après d'être fortement fatiguée. Et même là, sur le défi, même chose, hein, j'ai eu 2 nuits agitées et après j'ai fait des bonnes nuits de 8 heures, mais j'ai pas dormi plus que d'habitude, quoi. J'ai pas eu besoin de récupérer ces nuits blanches, en fait.
Ok. Bon, on est vraiment pas tous fait pareil parce que moi, pour avoir fait quelques raids de nuit, je sais que derrière le corps, il prend quand même du temps et peut-être quid de ta récupération suite du coup à ces 24 heures. Je sais toujours pas si on l'avait précisé, mais tu as quand même fait 16 700 mètres de dénivelé. 16 572.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Et 144 kilomètres cumulés, ouais. Ça donc, fait 144,
ouais. Ça fait un très gros volume et donc le corps a quand même besoin de récupérer. Et comme on s'est téléphoné une semaine après, tu me disais que ça allait, il y avait peut-être pas trop de douleur. Est-ce que t'as pas eu de contre-coup après coup et est-ce que aujourd'hui, un mois après, ça fait un petit peu moins, je vois les choses un petit peu plus avancer plus vite. Mais est-ce que tu te sens toujours bien 2 semaines après du coup?
Oui, alors enfin là je fais très attention de ne pas courir encore. Enfin je pense que j'irai peut-être ce week-end parce que là je me sens très bien. J'ai été étonnée de pas avoir trop de douleurs musculaires. Par contre j'ai eu très très mal aux pieds pendant 3 jours. Mes pieds étaient dans un état. Enfin je les ai sentis seulement le lendemain et pendant 3-4 jours j'avais des fourmillements. Enfin des sensations très bizarres aux pieds. Et au niveau récup, j'avais une douleur sur un pied. J'ai vu mon ostéo, c'est un vrai magicien. Il m'a libéré cette douleur. J'avais un ongle abîmé. J'ai vu mon podologue qui m'a soigné ça. Et globalement, aucune plus de séquelles depuis déjà le week-end dernier. Hein. Et je me sens en forme. J'ai recommencé à nager. J'ai fait une ou deux séances de natation et puis le home trainer déjà hier et je pense que voilà c'est reprendre doucement la course à pied là si je reprends ce sera pas plus de 1 heure et surtout être à l'écoute du moindre signal pour pas se blesser derrière parce que c'est vrai que c'était quand même un effort que le corps ne connaissait pas autant de dénivelé c'était quand même nouveau donc ouais niveau récupération je suis vraiment épatée du peu de fatigue réelle parce que j'ai retravaillé dès le lundi hein, donc faut retourner dans la vie réelle et je pensais que l'accumulation de d'énergie dépensée en plus pour le travail allait me fatiguer mais non ça passe vraiment très bien.
Ok, bon en tout cas tu m'as fait deux appels du pied pour 2 questions que j'avais à la fois sur le triathlon et sur la vie professionnelle. Peut-être pour rester un petit peu dans le sport et tu as mentionné le fait que tu nageais, que tu faisais du home trainer. Il me semble que tu as fait aussi du triathlon un petit peu plus jeune.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose sur lequel une discipline sur laquelle tu as envie de revenir et pourquoi pas de performer?
Alors ouais, j'ai démarré par le triathlon justement à mes 20 ans parce que c'est à cette période-là où on a créé le club de notre ville avec mon mari et des copains. Et c'est pour ça que je me suis mis dans le triathlon. J'ai appris à nager cette période. Hein. Et c'est pour ça que j'étais plus partie sur du duathlon parce que moi, la natation, je nage, hein, mais je nage comme une quiche, comme je dis. Donc c'est pas là où je performe. Et c'est vrai que j'avais participé aux manches de division 2, de duathlon, que ce soit en cours ou en longue distance. J'avais fait les championnats de France, donc c'est vrai que j'avais un passif sur le triathlon. Après, j'aimais moins le côté très très normé. Moi le sport, c'est pour se détendre, c'est justement pour évacuer le stress. Voilà, faut pas qu'il y ait... Là, c'était les horaires, piscine à telle heure, vélo à telle heure, tel jour. Voilà, j'avais besoin de plus de liberté, en fait, et puis de retour à la nature. C'est vrai que le raid, c'était déjà... C'était vraiment nature et c'est vraiment ce qui me plaisait aussi dans le raid, c'était le côté team et le côté on est dans la nature, on fait abstraction du quotidien, on est coupé de tout quoi. Mais j'ai gardé voilà les entraînements croisés pour avec le vélo. L'hiver je fais beaucoup de VTT et c'est très important je pense aussi de pour éviter les blessures au long terme. Autant l'été c'est vrai que je charge beaucoup en course à pied, mais autant l'hiver c'est le VTT ou le home trainer. Hein. Maintenant il y a des bons outils comme Zwift qui permettent d'aider à appréhender le home trainer parce que c'est vrai que c'est assez chiant, on va pas se le cacher. Et puis la natation c'est vraiment pas mon fort, mais je me force quand même à y aller parce que j'aime bien l'état après, on se sent bien et je sais que c'est très bénéfique pour le corps. Pour là je pensais pour les moindres douleurs c'était le top en récupération. Et puis ça permet de faire voilà, de se sentir bien comme si on avait fait une bonne séance de course à pied, mais même si j'aime moins l'effort de la piscine.
Ouais, bah en tout cas, moi je crois de plus en plus à la puissance en tout cas du fait de croiser un petit peu ses entraînements et de pouvoir un petit peu varier. Ça me fait penser à une interview que j'avais fait avec Benjamin Choquer qui est champion du monde de duathlon et qui est aussi qui a fait le minima de temps pour aller au jeu sur la distance marathon. Donc c'est quand même pas anodin. Je pense aussi à Vincent Louis qui avait fait, il me semble, un podium au championnat de France de cross il y a quelques années. Donc on voit aussi que bah les triathlètes et les duathlètes ont quand même beaucoup de bénéfices à en tirer pour juste la pratique de la course à pied ou même du trail ou du cross. Donc
c'est un sport qui est très dur parce que faut être bon dans toutes les disciplines et on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de privilégier plus une discipline qu'une autre. Non, c'est vraiment faut vraiment être carré avec soi-même. Et c'est vrai que le sport pour moi c'est de la détente, donc à un moment ça devenait trop compliqué avoir ces triggers, en fait. Voilà, c'est très rigoureux avec soi-même et tout le temps, donc et pour les trois disciplines. C'est pour ça que je me suis un petit peu éloignée aussi du milieu du triathlon.
Ok, d'accord, je comprends mieux. Et je voulais rebondir un petit peu sur ton organisation personnelle et la façon dont tu arrivais à jongler avec ton job. J'ai l'impression que tu t'entraînes énormément. J'avais entendu par-ci par-là que ça se comptait en plusieurs dizaines d'heures par semaine. J'ai l'impression que tu as une vie aussi professionnelle hyper épanouie et que tu adores ton job. D'ailleurs, peut-être que tu pourras nous rappeler ce que tu fais. Mais je voulais un petit peu savoir comment est-ce que tu organisais ta semaine et comment est-ce que tu faisais pour justement avoir te dégager du temps pour te faire des gros blocs d'entraînement, et comment est-ce que tu arrivais à jongler et aussi peut-être quid du télétravail et du confinement qui a poussé ça et qui quand même, je trouve, en tout cas pour les sportifs, leur permet de s'organiser beaucoup mieux, quoi.
Tout à fait. En fait, moi, j'ai pas de routine. C'est ça aussi que j'aime dans mon métier, c'est que j'ai jamais une semaine comme une autre, ni un jour comme un autre. Je suis commerciale dans le monde de la santé, donc je vais voir les laboratoires d'analyse de sang pour tout ce qui est hémostase. Donc, l'hémostase, c'est ce qui touche la coagulation du sang. Donc moi, je leur propose tout ce qui est automate, réactif, service, voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Ma boîte est sur Paris, donc je suis en télétravail quand je suis pas chez les clients. Mais par contre, voilà, j'ai un gros secteur, j'ai tous les Hauts-de-France et une partie de la Belgique au niveau de la Wallonie. Donc le pire, c'est les heures de route qui sont terribles parce que ça fatigue énormément les jambes. Enfin, quand je fais 3 heures de route, je rentre, j'ai juste pas envie d'aller m'entraîner. Et donc, dans ces cas-là, ouais, c'est très difficile des fois à caser. Je me souviens d'entraînement UTMB, ça avait été, mais, enfin, j'étais, il fallait vraiment le lundi que je prévois comment j'allais m'organiser, comment je prévois mes rendez-vous pour essayer de caser telle séance, ou inversement, j'ai tel rendez-vous là-bas, il va falloir que je fasse ma séance, comment je vais faire? Donc ça m'arrive très souvent d'avoir les baskets dans la valise quand je suis en déplacement et je cours où je suis, quoi. Même si c'est pas évident quand on n'est pas le terrain, je me débrouille quoi qu'il arrive pour, de toute façon c'est un besoin. Après il y a des hôtels aussi, il y a des salles de sport, donc mais c'est vrai que c'est pas easy, mais je m'en sors. Et c'est vrai que le confinement a un peu aidé, il y avait beaucoup plus de télétravail, j'allais beaucoup moins chez les clients, et donc j'ai la chance d'avoir un mari très sportif. Donc on avait transformé à quelque temps notre garage en salle de sport. D'accord. Et donc pendant le confinement, on était vraiment contents d'avoir la salle de sport, et là on a fait des entraînements de qualité. On avait le tapis de course et les home trainers, et on faisait des entraînements croisés, et on sortait pas, hein, mais du coup on faisait quand même pas mal d'heures sur la semaine. Donc ça c'était l'avantage du confinement, voilà. On en a tiré du positif. Et non, après c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une activité pleine et caser les entraînements. C'est aussi les week-ends où nous on vit différemment des autres. On brunch très souvent le samedi et le dimanche pour caser nos heures d'entraînement sur la fin de matinée jusqu'en milieu d'après-midi. Donc ça c'est un fonctionnement qu'on a depuis longtemps et qu'on aime bien.
Ok, d'accord. Bon, en tout cas, félicitations pour cette organisation, parce que effectivement, en plus, quand on est commercial et qu'on passe souvent du temps dans les transports ou dans la voiture à courir à droite à gauche, c'est un petit peu l'opposé de la routine très carrée que peuvent avoir certains athlètes de haut niveau. Donc, j'imagine que ça doit être un sacré casse-tête. Donc, félicitations pour tout ça, parce que j'imagine que ça n'a pas été évident tous les jours. Écoute, j'ai vraiment été ravi de pouvoir avoir cet échange. Ça fait déjà 50 minutes. Pour la fin, j'ai des petites questions un peu. Les auditeurs les appellent des fois les questions un peu Canal+. Est-ce que ça te dit d'y participer?
Oui, plaisir.
Tu peux y répondre très vite ou tu peux donner du détail. C'est comme tu veux. La toute première, c'est de savoir c'est quoi une très bonne journée pour toi.
C'est une journée, bah oui, il fait beau. J'adore le soleil. Enfin, c'est vrai que je suis très lunatique en fonction de quand je me lève. Si je vois le soleil, enfin, je sais que ça sera une bonne journée. Donc, une journée ensoleillée où je peux faire du sport et où je rencontre beaucoup de monde. J'aime beaucoup le contact humain.
Ok. Est-ce que tu as un petit gris-gris pour faire baisser la pression avant une compétition ou pour te détendre tout simplement?
Non.
Non. Je suis détendu naturellement.
Ouais.
Ok. Et est-ce que dans ta carrière sportive, il y a eu un instant qui a été un peu plus décisif que les autres?
L'UTMB.
Ouais.
C'est quelque chose. C'était mon premier 100 miles, et puis j'avais tellement galéré pour avoir le tirage au sort que quand on le réussit, c'est vraiment quelque chose de sympa, puisqu'il y en a découlé derrière, parce que j'ai été appelée pour faire des conférences, enfin, on m'a parlé du TMB, je sais pas, pendant 3 ou 4 mois, quoi. C'est à un moment, je disais aux gens, mais on peut parler d'autre chose que du TMB. Enfin, c'était vraiment dès qu'on voyait, c'était Élise égale UTMB. Et donc, c'était chouette d'en parler, mais à un moment, enfin, je me disais, il faut que je passe à autre chose, quoi. Mais, donc, c'est pour ça, ouais, ça m'a permis de vivre d'autres bons moments après, d'avoir des échanges, de rencontrer des super personnes aussi, au travers de ça. Donc, ouais.
Ouais, génial. Bon, fais attention parce qu'il risque de t'arriver la même chose du coup avec ton dernier record. Et ça me mène à la question suivante. C'est quoi ton prochain défi?
Ah ben ça, j'aimerais bien le savoir. Enfin, on verra comment. En fait, j'arrive pas à me projeter sur 2021. Avec le contexte Covid, on sait pas trop comment ça va se passer. Mais un ou deux ultras sur 2021 pour sûr, quoi. Lesquels, je sais pas comment tout ça va se passer. Mais et puis c'est vrai que l'idée du défi, faut que je réfléchisse. Mais j'ai bien aimé ce côté défi perso. C'est une autre formule. C'est pas un ultra. Mais à creuser. Mais je me laisse un peu de temps. Là, je savoure, on va dire.
Ça marche. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Alors, dans 10 ans, comment je me vois? J'aurai 46 ans. Toujours sportive, hein. Je pense que ça fait partie de ma vie. C'est un équilibre de vie, c'est un besoin. Sportive, toujours en activité. Hein, ça, c'est quelque chose aussi qui permet de garder la tête froide, on va dire, de pas être dans un milieu uniquement sportif ou... Ça permet de prendre du recul sur tout. Et puis, certainement vivre à la montagne, parce que ça, c'est un projet qu'on a avec mon mari. C'est un projet qui arrivera en 2021, normalement. Donc, j'aurais certainement changé de lieu de vie.
D'accord, ok. Ouais, c'est forcément un petit passage incontournable pour les athlètes qui ont besoin de la montagne, j'imagine que ça doit pas être toujours facile, ouais. Même si t'as les terrils et que tu t'en sors très très bien et que tu l'as montré encore récemment, des fois ça, il y a aussi un désir et un attrait de la nature, comme t'en as si bien parlé tout à l'heure, qui accélère un petit peu les choses, quoi.
Exactement.
Ouais. Est-ce que tu peux nous partager une des choses qui te fait encore peur? Est-ce qu'il y a des choses qui te font encore peur?
En fait, à chaque départ d'ultra, il y a toujours la peur de l'échec, parce qu'on sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Enfin, c'est toujours reprendre. Enfin, je pense que chaque ligne de départ, c'est un retour à zéro sur sa capacité à finir ou pas. Parce que même si on l'a déjà fait, on n'est jamais à l'abri soit d'une entorse, soit d'un souci gastrique, une chute. Enfin, il y a tellement de vecteurs, c'est toujours ouais non la peur de pas réussir, parce que quand on fait de l'ultra, on peut pas en faire beaucoup dans l'année, et quand on a un échec sur un ultra, je pense que c'est difficile, parce qu'on ne peut pas se dire je vais rebondir sur une nouvelle compétition qui arrive bientôt. Bah non, parce qu'on peut pas en faire énormément, quoi. Donc c'est toujours la peur de m'auto-décevoir, parce que c'est des heures d'entraînement, c'est tellement, on en parle tellement longtemps d'une préparation d'ultra, que le jour J, il faut que ça se passe bien, quoi. Sinon c'est terrible les conséquences. Au niveau, je parle de satisfaction personnelle, quoi, parce qu'on a mis tellement de choses de côté, parce qu'on a, justement mis en place un emploi du temps spécifique pour caser tous les entraînements. Enfin, il y a plein de choses. Donc ouais, c'est la peur de pas aller au bout. Après, je m'en fous de finir au fin fond du classement, mais c'est de pouvoir finir, quoi. C'est la satisfaction de passer la ligne d'arrivée, quoi.
Ouais, la peur de pas terminer. Alors, si je comprends bien.
C'est ça.
Et, si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, quand tu te remettais justement au sport et au triathlon, qu'est-ce que tu te dirais ?
Qu'est-ce que je me dirais ? D'oser, de ne pas se poser de questions quand on a la possibilité, c'est d'y aller, de foncer, quoi. Ça, foncer, croquer la vie à pleines dents, et on ne sait jamais de quoi demain il fait, donc profitons.
Ok, génial. Y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer au haut niveau ?
Le cyclisme. Je pense que j'ai des capacités. Si j'exploitais bien, si je faisais réellement les entraînements spécifiques, je pense que ouais, il y aurait moyen de faire quelque chose au niveau cyclisme. C'est une question. À un moment, je me suis posée. Tiens, pourquoi pas tenter cyclisme ? On peut pas tout faire, quoi, parce que déjà, j'aimerais bien faire plus de raids. J'adore l'état d'esprit des raids multisports, mais c'est hyper énergivore. Ça prend déjà du temps, et puis ça prend, on peut pas faire de l'ultra et du raid. Donc déjà, ça c'est un regret de pas pouvoir en faire plus, mais voilà. Peut-être qu'un jour, je repartirai sur plus du raid que du ultra, je sais pas, on verra.
D'accord, super. Et bon, j'arrive à l'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes souvent à tes amis et à tes proches ?
Alors un livre, alors il y a un truc, c'est pas vraiment un livre, c'est mon mari est fan de BD, donc c'est une BD qui est sous forme de manga, ça s'appelle Le Sommet des Dieux, c'est en plusieurs tomes, et je me souviens avoir lu ça, et ça parle, enfin à toute personne qui est sportive, ça lui parle, c'est justement sur le défi, on y est, hein, sur les ascensions, sur l'intérêt, justement, des fois on peut toujours poser la question, mais pourquoi on fait ça, quoi. Et c'est vrai que ce bouquin m'avait aidé à avancer. J'aime bien. Et quand on me demande, je dis toujours, ouais, le sommet des dieux. Je trouve qu'on ça nous permet de se raisonner soi-même, quoi.
D'accord, génial. Et la dernière question, c'est aussi une tradition de terminer par ça. C'est un petit peu une référence au flambeau olympique. Donc c'est un passage de flambeau, mais plutôt un passage de micro, c'est de savoir quel est le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu me recommandes d'interviewer sur le podcast Extraterrien.
Alors, quand tu m'avais dit dans la sphère des connaissances, là, je vais pas aller très loin. C'est mon mari, en fait, parce que mon mari, là, il suit ce que je fais, mais lui est aussi un peu taré dans sa pratique. Lui a déjà fait plusieurs fois les 24 heures du Mont Roller, donc c'est pareil, hein, c'est la même idée. Pendant 24 heures, il tournait sur le circuit du Mont, donc il avait terminé à une deuxième place. C'est un peu l'équivalent des championnats du monde de roller. Hein. Mmh. Bon, ça fait 2 ans que c'est annulé, et sinon il est fan de raid multisport, et cet été pareil, un peu sur un coup de tête avec un copain, ils ont fait une traversée en bikepacking de la France qui s'appelle sur le tracé de la French Divide, et en fait ils sont remontés de Bayonne jusque dans le nord en faisant 35 000 mètres de dénivelé et 2000 km en 10 jours. D'accord. Donc je pense qu'ils se rendent pas compte de l'effort que ça peut être, parce qu'ils ont eu tous les temps, ils ont dormi à même le sol parfois, et c'était vraiment des heures et des heures de sel, 15 heures par jour. Donc je trouve que la prouesse est quand même pas mal, et ça se fait dans l'ombre. Donc voilà, c'était l'occasion de le mettre un petit peu en lumière là-dessus. Donc voilà, je suis pas allée chercher loin, mais voilà, c'est des efforts dont on se rend pas compte, mais ouais, passer 15 heures sur une selle pendant 10 jours, c'est pas easy, quoi.
Bah écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et puis comme j'ai eu droit à sa petite intervention tout à l'heure pour les réglages techniques, il avait l'air d'avoir beaucoup d'énergie et il avait l'air très marrant, donc on en reparle en privé pour organiser ça, ouais, avec grand plaisir.
Ça marche.
Bah écoute, merci infiniment Élise, j'ai passé un super moment, j'étais vraiment content d'être cette petite souris et de comprendre un petit peu comment est-ce que tu avais pensé tout ça, comment est-ce que tu avais organisé tout ça et aussi bah, tu t'es livré un peu sur tes difficultés, sur ce que tu avais traversé dans ta vie, et je trouve que j'ai senti en tout cas beaucoup de spontanéité, mais surtout du cœur et de l'honnêteté, quoi. On sent que t'es une personne entière et ça fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi, et j'espère que les auditeurs auront eu aussi ce sentiment là donc merci infiniment, et j'encourage tous les auditeurs à aller suivre Élise sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des petits trucs qui fait plaisir d'envoyer un petit message pour dire que vous avez écouté l'interview et que vous avez bien aimé. Je sais qu'à chaque fois ça met du baume au cœur. Et peut-être un petit mot pour la fin, Élise ?
Eh ben, osez ce qui. Enfin, si vous avez des objectifs, arrêtez de vous poser des questions et lancez-vous, quoi. Il y a que comme ça qu'on saura si ça fonctionne. J'en suis la preuve. Voilà, en trois semaines, voilà ce que j'ai fait avec le défi. Donc, à chacun de faire pareil. Tout est possible.
D'accord. Bah, écoute, merci infiniment, Élise, et à très bientôt.
À très bientôt, merci, bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.